pense qu'il y a dans certains textes antiques, je me demande même si ce n'est pas dans l'Iliade, en tout cas, certainement chez certains historiens grecs, il y a des descriptions de soldats sur des remparts dont on dit qu'ils sont alignés comme des chauves-souris. Donc, on les a vus, on a vu les colonies, on les a donc intégrés au monde humain à ce moment-là au moins. Elles entrent dans toute une série d'animaux qui sont des animaux malvenus, mal vus, mal représentés. Il pèse sur eux évidemment la malédiction du nocturne. Tout ce qui est nocturne est volontiers classé dans l'étrange, le mystérieux, le diabolique. On ne semble pas à ce moment-là s'intéresser tellement aux conditions de l'envol. Ça ne semble pas poser problème. Ce qui intéresse plutôt, c'est le fait qu'elles ne dorment pas. Elles semblent être des vigilantes. On ne relève pas du tout qu'elles crient. On semble ne pas l'entendre. Tout se passe comme si la chauve-souris passe pour un animal muet, comme elle passe pratiquement pour un animal aveugle, puisqu'on se dit qu'elle se déplace dans la nuit, mais dans la nuit, la vision n'est pas utile. Je ne sais pas du tout à quel moment l'attitude vis-à-vis des chauves-souris, la prise de conscience de leur monde apparaît vraiment. Sans doute qu'elles bénéficient de la crise générale que traverse l'humain dans ses rapports avec l'animal. Tout se passe un peu comme si la fin du XXe et aujourd'hui parvenait seulement à voir et à entendre les animaux. J'ai le sentiment qu'on a passé une longue période de somnolence humaine vis-à-vis des animaux. À l'époque où les animaux étaient encore totalement parlés à travers la culture, on parle d'eux exactement de la même façon qu'on parlerait d'un être humain. La chauve-souris est assimilé aux savants qui veillent la nuit, avec ce que ça suppose de capacité, de force, mais aussi de risque de délire. On fait sans cesse des parallèles entre les deux. Il ne semble pas y avoir l'idée que la vie animale soit foncièrement différente de la vie des hommes. Ils ont une vie sociale. C'est tout le temps présent. C'est présent dans le roman de Renard, c'est présent... On sait que c'est une fable, mais ce n'est pas un hasard si la fable se construit de cette façon-là, je pense.
Disons qu'au début, il y a eu des gens qui ont fait des études sur les chauves-souris. Il y a déjà eu déjà en 1700, je crois, 57, il y avait un Italien, Spallanzani. Il les laissait voler dans une chambre et il avait remarqué que ces chauves-souris ne volaient pas contre des fils. Alors il avait pris certaines chauves-souris, il avait enlevé les yeux, il les laissait voler dans la chambre et de nouveau il voyait que ces chauves-souris ne volaient pas contre ces fils. En fait, il y a encore d'autres gens qui ont fait pas mal de choses autour des chauves-souris et il y avait différentes théories. Au moment où il y a eu la catastrophe avec le Titanic, il y a des gens qui commençaient à étudier et ils ont développé le sonar. Mais en même temps, il y a eu un Américain et un Hollandais qui ont commencé à étudier aussi les chauves-souris. Et disons, les premiers détecteurs, c'était vraiment un labo. C'était plein de matériel, des dizaines de kilos. Mais maintenant, si vous regardez les détecteurs, bon, c'est moins de 400-500 grammes. C'est une toute petite boîte. C'est quelque chose de 10 cm sur 5 cm.
Avec le sonar des chauves-souris, on est dans un contexte assez particulier. On a des observations biologiques, on a des réalisations technologiques et de la théorie du traitement du signal et de la physique et des sonars. Et tout ceci est très imbriqué. On vit dans un monde sonore dont les limites sont assez floues. Un son à 1000 Hz. 1000 Hz, c'est une fréquence où notre oreille est la plus sensible. C'est un son. Pour une chauve-souris, ce sera un infrason. La même chauve-souris, en montant dans ses fréquences à 30 kHz, elle sera dans les sons. Et nous, on sera nettement dans les ultrasons. Alors, l'intérêt des ultrasons pour les chauves-souris est qu'elles l'utilisent pour le sonar.
J'ai commencé à étudier les chauves-souris d'une manière plus spécifique avec un contrat Life Nature qu'on a décroché. On a recensé 16 espèces de chauves-souris en région bruxelloise, alors qu'on est seulement à la troisième année d'études. Tu vois quelque chose ?
Non.
Je me demande d'où viennent ces bruits parasites.
Chauve-souris qui vole là, mais elle est peut-être trop loin. Ah, c'est quand même assez puissant ça. Je suis vers 30. On va redescendre. 28, on l'entend, mais à 50. Non. Non, on la voit plus. Tant pis. Impossible de dire ce que c'est quoi.
Cette nuit-ci, apparemment trop frais. Bon, on peut faire l'autre moitié du tour de l'étang. Il y a encore deux points intéressants pour elle. Un point où l'air pousse plus haut et un point où l'eau est plus oxygénée. Il y a plus de remous, plus d'oxygénation. Donc probablement une faune entomologique qui se développe mieux. On est occupé à étudier ça aussi. On va essayer de cerner ce problème-là. On s'était dit à un certain moment, on se demandait pourquoi à Tonnereux qu'il y a autant d'espèces de chauves-souris. Là, il y a. Il suffit qu'elle chasse à un autre endroit de l'étang et je ne sais pas la capter. Elle émet un pic d'émission aux alentours de 40 kHz, ce qui est une fréquence relativement élevée, et À 45 kHz, cet appareil-ci, donc le Bad Box 3, détecte les sons jusqu'à une distance maximum, donc avec une batterie en pleine charge, à 30 mètres. Donc on est relativement limité. Donc il suffit qu'elle... On l'a entendu maintenant, mais il se peut qu'elle se trouve de l'autre côté de l'étang, et alors on l'aurait eu juste en passage. On peut peut-être... Elle est de nouveau là. Ça, c'est une autre. Ça, c'est une pipistrelle. Donc on entend un son beaucoup plus mouillé comparé au toc de l'autre espèce qu'on a entendu avant. Donc là, on a eu affaire à une pipistrelle en passage. Le rythme très lent qu'on a entendu est typique d'une chauve-souris qui avance sans spécialement chasser. La fréquence était de 47 kHz, qui est un pic d'émission pour les pipistrelles également. C'est un appareil de type hétérodyne, c'est-à-dire qu'il traduit à une fréquence audible les ultrasons émis par les chauves-souris.
Le principe de l'hétérodynage est de combiner deux fréquences. Une émise par l'animal et une variable fournie par le détecteur. En sortie de cette combinaison, on a deux nouvelles tonalités, une qui correspond à la différence et parallèlement la somme. Et là, on se retrouve au-delà de ce que l'on peut entendre et c'est éliminé déjà par notre oreille et en plus par filtrage. Alors, on ne considère que la différence des deux tonalités.
Donc, dans les espèces qui vivent dans nos régions, elles émettent entre 20 et 120 kHz, mais une majorité d'espèces sont détectables à 40 kHz. Donc je fixe la fréquence sur 40 kHz pour avoir le plus de chances de croiser un spécimen, entre 40 et 50 kHz. Les noctules par exemple émettent entre 20 et 30 kHz. Je vais devoir switcher de temps en temps vers ces fréquences-là pour essayer de perdre le moins possible de données. Et dès que j'ai un contact, alors on essayera de définir l'espèce que c'est. Bon, on voit encore un petit peu clair, donc on pourra peut-être voir certains spécimens. Bon, ça fait quand même quelques fois que je viens ici, donc je connais également les coins où elles ont l'habitude de chasser. Et il y a un des coins d'ailleurs où l'an passé on a observé une centaine d'individus à peu près de murins de Dobenton, donc le Myotis dobentoni.
Quand il y a une centaine de chauves-souris de la même espèce, toutes ces cris, même s'ils sont en gros dans les mêmes fréquences, ils sont toujours différents. Disons, les chauves-souris ont un système indépendant au niveau de l'individu. C'est-à-dire qu'une chauve-souris émet un cri. Ce cri, elle l'a en mémoire. Lorsqu'elle écoute, elle va reconnaître dans les échos ou dans le vacarme qu'il y a autour d'elle quelque chose qui ressemble au cri qu'elle a émis. Elle reconnaît son écho et le traite en tant que tel. Alors, il est certain que chacune peut entendre les échos qui sont dus aux autres chauves-souris. Mais comme elle ne connaît pas le cri de référence, ça ne lui sert à rien.
Il y a un petit craquement, mais j'ai pas l'impression que c'est une chauve-souris. Et d'habitude, les Dobenton, on les voit parce qu'elles ont un vol très régulier à entre 5 et 10 cm au-dessus de l'eau. Et elles ont un vol circulaire, relativement rapide, mais à une hauteur constante. Donc facilement repérable, il suffit de prendre la réverbération d'une lampe, fixer son regard dedans et normalement on voit les myotis qui coupent. Ça, mais je ne vois rien du tout. C'est probablement un bruit parasite. Elles ont toutes des vols relativement caractéristiques. Bon, les pipistrelles par exemple ont un vol de chasse en zigzag, c'est-à-dire qu'elles ont une trajectoire de vol et quand elles capturent un insecte, elles vont complètement quitter leur ligne de vol. Les sérotines volent à une altitude entre 5 et 15 mètres de hauteur et piquent tout d'un coup vers le sol pour capturer quelque chose et puis remontent. Les grands murins font la même chose, capturent même des insectes au sol, comme des araignées ou des choses comme ça. Les noctules ont un vol d'altitude relativement régulier. Et alors des espèces comme les oreillards, les rhinolophes, inspectent les buissons et donc font des vols entre les différents buissons et inspectent les arbres de bas en haut et puis passent à un arbre suivant et continuent. Tant qu'il y a des insectes, elles continuent. On peut aller voir sur le petit étang de la Royale Belge. Il y a finalement des Dobentons. Bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant si on veut voir des chauves-souris. La présence d'eau est toujours nécessaire. Ils mangent des aliments très 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 salés. Et pour pouvoir dissoudre tous ces sels et les assimiler par le corps, ils ont besoin de boire énormément. Les sources d'eau où des insectes émergent, ça leur permet d'avoir les deux. Bon, ça c'est de l'eau en ultrason. L'eau qui coule est assez perturbatrice. Quand on veut détecter des noctules, par exemple, on va vite être perturbé par des bruits parasites, puisqu'elle met à des fréquences très très basses. Donc c'est là qu'il y a le plus de bruits parasites. Hein. Voilà une petite pipistrelle. Ok, on la voit bien hein, aussi. Et on voit qu'elle fait un vol beaucoup plus en zigzag que l'autre. Et hop, elle revient. Là, on a entendu donc un son où le rythme s'accélérait très 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 fort, ça forme presque un comme ça. Ça c'est lorsque la chauve-souris capture sa proie. Donc ce sont les dernières écolocations avant la capture proprement dite.
Une chauve-souris fonctionne en principe actif. Elle palpe son milieu, elle pose des questions au milieu. Chaque signal envoyé par la chauve-souris cache une question. En reconnaissance, elle va poser une question, y a-t-il quelque chose ? Elle répète cette question, y a-t-il quelque chose ? Elle attend l'écho, pas de réponse. Elle répète sa question, y a-t-il quelque chose ? Hop, il y a un écho qui revient. Question ? Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce ? Alors là, elle va modifier sa question. Si elle veut savoir où est-ce, elle va grimper dans les fréquences pour améliorer sa directivité. Elle va élargir sa bande pour améliorer la précision, la mesure en distance. Ceci permet de localiser. Mais il faut savoir si c'est un obstacle ou une cible. Elle va interpréter tous les échos secondaires qui sont autour de l'écho principal, qui donnent une idée du volume et des mouvements de l'animal. À ce moment-là, la chauve-souris est très près de sa proie et est donc en mesure de la capturer. Et la chauve-souris reprend son rythme de transit en attendant de trouver une nouvelle proie. Tout ceci a duré moins d'une seconde.
Il y a plusieurs chauves-souris, donc ça fait on entend malheureusement un amalgame. Il y a une pipistrelle. Et un Dobenton. La pipistrelle a disparu. La voilà. Je crois que là, on a bien entendu la différence de son. On entend le pic-toc, pic-toc. Ça, c'est de nouveau la pipistrelle. On se rend compte, en entendant ça, la difficulté d'identifier réellement. Pour reconnaître les espèces, il y a déjà certaines complications. Mais même lorsqu'on connaît une espèce, la même espèce va avoir un tas de variétés ou de variations de sons en fonction de son comportement, soit de chasse, soit de repérage, soit de cri social, etc. Si elles vivent en colonie encore, ça fait une gamme de sons qui est ahurissante.
Une chauve-souris qui va tourner dans une lisière en passant alternativement en sous-bois et en espace libre, va avoir des cris différents suivant l'endroit où elle se trouve. Et en plus, on va avoir des structures qui varient suivant ce que fait l'animal. Alors si bien que dans chaque cas, on a l'espèce qui entre en jeu, le milieu et ce que fait l'animal.
Pour différencier les myotis, c'est plus difficile parce qu'ils ont presque tous des bandes de fréquences assez fermées, mais des rythmes qui sont trop rapides pour notre oreille, pour qu'on puisse distinguer s'ils en émettent, je veux dire, 20 ou 50 à la seconde. Et des bandes de fréquences à peu près identiques, donc c'est difficile de les différencier uniquement au son. Donc on va devoir s'aider du visuel, du comportemental, pour ajouter des détails et rechercher, quoi. Ou alors utiliser un... Bien vu le lien. Ou alors utiliser un expanseur de temps. Parce qu'il existe des appareils qui ne sont pas que hétérodynes, qui sont également expanseurs de temps.
Il y a les sérotines normalement. La dernière fois, on les voyait bien. Mais bon, je ne sais jamais avec ces bestioles-là. Bon, en fait, on va attendre là parce que c'est là que les premières apparaissent généralement. Là, je passe vers 28-29, parce que c'est généralement à cette fréquence qu'on entend bien les sérotines. On va espérer qu'il y en a qui vont arriver quand même. Pour mes prospections, j'utilise le Peterson D980. Qui est un appareil qui réalise une expansion de temps, qui multiplie les enregistrements, les sons émis par les chauves-souris par un facteur 10, qui permet d'être à ce moment-là écouté et perçu par l'oreille humaine.
Ici, on est en hétérodynage, parce que cela varie suivant le réglage de l'appareil. On va éteindre la chauve-souris artificielle et on l'entend ralenti 10 fois. Les deux sons qu'on a entendus successivement n'ont rien de commun en matière de structure. Le cri expansé est plus près du cri originel, en ce sens qu'on n'a perdu aucune des oscillations, C'est le cri lui-même, sauf qu'il a étiré dans le temps.
En fait, le système hétérodyne est un peu moins évident à utiliser parce que on se place à une certaine fréquence et on observe tous les sons du milieu à cette fréquence. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait louper d'autres animaux qui émettent à des fréquences bien plus basses ou bien plus hautes. Alors qu'avec le Peterson, on a vraiment l'audition complète. C'est-à-dire qu'on entend comme si on était dans l'environnement, comme si on entendait des gens parler, on entend vraiment tout et on a la faculté d'entendre toutes les espèces présentes. Ça c'est une noctule. Là elle attrape quelque chose.
La pipistrelle au son, ça fait piu piu piu. Et donc les murins qui ont une fréquence modulée, ça fait piu piu piu. Les noctules font piu piu. Les sérotines, c'est comme les pipistrelles, sauf que c'est beaucoup plus grave.
Les sons sont beaux, bien sûr, il faut faire attention à l'environnement, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit externe. Et surtout pas parler pendant les enregistrements, parce que sinon... Si tu fais comme ça, et tu enregistres, ça fait un... Juste comme ça pour que j'enregistre.
Ouais, hein, quand même. Voilà, attends.
Tatat. Je vais le refaire après. Là, je suis en train d'enregistrer. C'est vraiment... Plein de choses là. On a trois espèces au moins. La pipistrelle. Au loin, on entend la noctule. Et à mon avis, si on s'approche, il y aura certainement... Ah voilà. Je vais l'enregistrer. Manger un cresson social aussi là. Voilà. On va peut-être l'entendre à la fin. Ah. Voilà. C'est donc un cristaux de pipistrelle, ça. Et il y a aussi un dobanton qui chasse sur l'eau, mais... on l'entend de manière très faible. Là, c'est... piou. Ouais. Il y a plein de cristaux sociaux. Ah, un autre cristaux social. Là, j'ai un dobanton. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Donc, tout à l'heure, là, on entendait des pipistrelles. L'autre qu'on entendait derrière, il faudrait que je regarde sur mon... avec l'hétérodyne pour savoir si c'est une sérotine ou une noctule. Parce que lorsqu'elles sont en chasse, c'est le problème, c'est que quand il y a vraiment beaucoup d'insectes, les noctules, à ce moment-là, elles ne peuvent qu'utiliser le signal en fréquence modulée à planille. À ce moment-là, on peut confondre avec une sérotine. Là, on a le dobanton très bien. Ah, il est passé tout près. Hein. C'est dommage qu'on on dirait une mobilette à une hétérodyne. Voilà. Là déjà, on a enregistré 4 espèces. Peut-être 5, parce qu'il y a peut-être 2 pipistrelles différentes, mais... sans l'analyse... Or, par ordinateur, c'est un peu plus laborieux parce que... BatSound version 3.1. C'est un logiciel qui permet d'analyser les sons. Je rentre les sons dans l'ordinateur qui me restitue un sonagramme. À ce moment-là, j'ai une vision assez nette du son, non seulement acoustique, mais donc là, je peux vraiment travailler dessus en essayant de connaître les pics de fréquence de l'animal, la longueur du signal, le rythme d'émission, etc.
Question, combien de cris ? Dans l'enregistrement, on a plusieurs animaux qui chassent en même temps. Et on a des cris donc différents. On va en entendre un. Et on va entendre celui-ci. La différence à l'oreille n'est pas très aisée. Ça, je le reconnais. Alors, ceci montre quand même les difficultés de faire quelque chose à l'oreille, même ralenti. Alors qu'à l'écran, on voit nettement qu'il y a plusieurs animaux, on a vraiment une bousculade. Et là, on est dans des domaines qui sont tellement subtils pour l'oreille que la nécessité d'une représentation graphique apparaît nettement. Alors, là encore, on a des précautions à prendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de méthode universelle pour représenter graphiquement un son. Alors ici, sur l'écran, nous avons une pipistrelle. On peut l'entendre. Ici, elle est donc ralentie 20 fois. On va la ralentir un peu plus. Dire que le cri est vraiment différent. Et pourtant, c'est le même animal. Ce coefficient d'expansion doit être présent. Si on écoute une pipistrelle et que l'on oublie ces coefficients, on peut prendre la pipistrelle ralentie 20 fois pour une sérotine ralentie 10 fois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'air atténue les fréquences. Et plus on monte en fréquence, plus elles sont atténuées. C'est-à-dire que à 100 kHz, on a une atténuation de 3 dB par mètre. Ce qui est quand même énorme. Si bien que l'étude d'un cri isolé peut entraîner des erreurs. On a toujours intérêt à travailler sur de longues séquences. De toute façon, quelle que soit la technique utilisée, on n'a pas une représentation du cri normal de l'animal. C'est toujours déformé. Si on prend une espèce donnée, dans un comportement bien déterminé, qu'on l'enregistre simultanément par hétérodynage ou par expansion de temps, on aura des sons différents. Pour faire une comparaison avec le même oiseau, disons un rossignol pour donner un cas concret, si on est par hétérodyne, on va voir quelque chose qui ressemble à un cri de corbeau. Si on est en expansion de temps, on aura quelque chose qui ressemble à un cri de baleine. Alors, aucun va ressembler donc au cri d'origine. Il faut faire une gymnastique d'esprit en disant « Je suis par hétérodyne, j'entends un corbeau, donc c'est un rossignol. Je suis en expansion de temps, j'entends une baleine, donc c'est un rossignol. » En aucun cas, on a le cri normal de l'animal. Chaque fois, on déforme. En résumé, on raisonne sur des cris faux pour obtenir un résultat exact. C'est là la difficulté. Parce qu'on n'a jamais entendu le cri réel. On sait qu'on déforme, mais on ne sait pas comment exactement. Alors on entend les chauves-souris qui dominent, et derrière un grésillement qui est dû à des insectes. Personnellement, je m'intéresse aux chauves-souris. Je considère les orthoptères qui font du vacarme derrière comme des parasites. Ce qui se passe, c'est que notre ouïe est très sélective. Lorsque je suis dans la nature, j'entends les chauves-souris. J'arrive à faire abstraction des cris d'insectes. Alors que si on regarde ce qui sort d'un micro sur un oscillo, on voit de l'herbe de partout et on ne distingue rien. Là, on entendait en fond des bruits d'insectes. Des espèces qui chassent au sol, comme le grand murin par exemple, sont capables de les entendre et de se diriger sur leur proie trahie par leurs émissions sonores. Les chauves-souris utilisent aussi leurs oreilles pour entendre. Lorsqu'on observe une chauve-souris et un insecte, on voit que la chauve-souris anticipe la trajectoire de l'insecte. Une chauve-souris a un vol plus rapide que celui d'un insecte. Les pipistrelles que l'on voit tourner autour des lampadaires ont des vols, disons, entre 15 et 25 mètres secondes. En kilomètre-heure... Si on parle de kilomètre-heure, on en arrive à des vitesses moyennes. Alors qu'en parlant en mètres par seconde, la seconde est quand même une durée qui est proche de la durée de l'acte. On dit on a vu, mais en fait on n'a rien vu. On s'imagine. Par l'observation acoustique, on peut imaginer ce que font les animaux, alors que visuellement, on n'aurait rien vu. C'est un lapsus que je fais assez souvent, parce que les sonars de ces chauves-souris sont tellement performants qu'on en arrive à utiliser des expressions du genre d'image acoustique, alors qu'en fait, ce sont que des sons qu'on ne voit pas. Lorsque nous entendons d'une façon continue. Lorsque nous voyons d'une façon continue. Alors qu'une chauve-souris, pour percevoir le milieu qui l'entoure, va envoyer un signal, attendre son écho, avant d'en renvoyer un autre. Si bien que, en une seconde, dans un vol, disons, sans obstacle, une chauve-souris va émettre une dizaine de cris. C'est-à-dire qu'en une seconde, elle va avoir 10 images successives. Alors, on peut imaginer qu'une chauve-souris n'a pas une vision continue comme nous, une perception continue, mais une perception qui serait plutôt stroboscopique. Ce sont des images qui se succèdent, chacune apportant son information. Le monde ultrasonore est quand même relativement pauvre en dehors des chauves-souris. Bon, il y a des insectes qui font beaucoup de bruit, mais sur le plan, disons, relationnel, les chauves-souris n'ont pas tellement, disons, de contact. Alors, elles ont des contacts entre elles. On a entendu une chauve-souris qui capturait. Elle a capturé l'insecte qu'elle convoitait grâce à son sonar. Mais les chauves-souris qui sont autour ont entendu, comme nous, qu'il y avait une capture. S'il y a une capture, c'est qu'il y a des insectes. Alors, si une chauve-souris à proximité tourne en rond depuis un quart d'heure en n'ayant rien trouvé, et qu'elle entend la copine capturer quelque chose, elle va avoir tendance à venir voir. Elle entend. Oui. Alors, dans ces conditions, il y a des réactions qui peuvent être bruyantes, c'est-à-dire qu'une des chauves-souris n'accepte pas l'intruse et on a des cris. Là, on entend très nettement les cris sonores et puis ce cri d'insulte. Les autres cris sociaux, ce sont des cris de défense. Lorsqu'on provoque une chauve-souris, alors là, ce sont des grincements qui n'ont rien de particulier. La chauve-souris montre ses dents, cherche à faire peur. Autrement, il y a les cris de relation entre jeunes et mère.
L'observation des chauves-souris à l'heure actuelle est sans doute significative dans la mesure où elle montre qu'il y a d'autres langages possibles que le langage verbal tel que nous percevons. Il y a d'autres communications possibles. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe précisément avec des animaux qui sont tellement différents de nous. Ce sont évidemment des mammifères. Mais elles ont apparemment un mode de perception, un mode de rapport au réel tellement spécifique qu'il est étonnant qu'on puisse se permettre d'étendre la comparaison des échanges sociaux humains et des échanges sociaux chauves-souris. Les scientifiques et les philosophes qui pensent les animaux aujourd'hui se disent que peut-être nous n'aurons jamais accès à leur réalité. Parce que l'intelligence du monde des uns et des autres, des hommes et des bêtes, passe, en tout cas, encore une fois selon la tradition des Lumières, par la sensorialité, et que des sensorialités différentes doivent donner des mondes différents. Nous n'avons pas la preuve absolue de cela. Alors, nous supposons que, effectivement, les chauves-souris, s'orientant, se déplaçant, s'exprimant sur des modalités tellement différentes, nous sont à jamais inaccessibles. Peut-être l'appareillage est-il en train de nous montrer le contraire. Et peut-être ne sont-elles pas si différentes. Nous ne savons pas ce qui se recompose à partir de leurs appareils perceptifs. Nous pouvons déceler qu'il y a des différences d'outillage physiologique, mais nous ne savons pas ce qu'est le traitement qui en résulte. Nous ne sommes pas dans le cerveau d'une chauve-souris.
Là, elle revient. Regarde comment va la lampe. Attends, elle revient. Immense, hein. Elle était immense, non? C'est une noctule, hein. Grave. Et hop là, c'est un beau coin, non? Il y en a deux. Il y en a une autre qui vient de passer. Waouh! Regarde! Trois. Il y a encore les martinets. C'est pas une pipistrelle, hein? Elle est à peu près à 30 mètres. Elle est immense. Voilà, on vient de se faire trois noctules en chasse juste au-dessus de nos têtes, à une trentaine de mètres. Ça fait un sacré potin. Très grand. 40 cm hein, d'envergure, sans problème, 40 cm. Je crois que tu sors une pièce de 20 de ta poche et ça fait à peu près son poids. Ça pèse rien. Rien du tout. S'ils avaient eu la vision, ils ne les auraient pas entendus. Ils n'auraient pas pu écouter s'ils avaient vu les grandes chauves-souris.
La précision aveugle. Un documentaire de Didier Demorcy. Avec la participation et les témoignages de Lucienne Strivet, Alexandre Lefebvre, Yves Tupinier, Yves Laurent et Géraldine Kapfer. Tous nos remerciements à Marc Van de Zijp et à Michel Barato et aux éditions Citel pour l'utilisation d'enregistrements d'écolocation extraits de leur double CD « Balade dans l'inaudible ». Une production de Deux Temps, Trois Mouvements ASBL avec le soutien de la communauté Wallonie-Bruxelles.